Filiale du groupe Banque Centrale Populaire vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. RFI vous donne ce matin la possibilité de poser toutes vos questions à Alain Mukuralinda, porte-parole adjoint du gouvernement rwandais. Durant les 20 prochaines minutes, nous évoquerons les trois grands sujets qui font l'actualité au Rwanda. Les tensions de plus en plus vives avec le voisin congolais. L'accord controversé conclu avec Londres pour accueillir les migrants expulsés du Royaume-Uni. Et le sommet du Commonwealth qui se tient à Kigali. Bonjour Alain Mukuralinda.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous en direct de Kigali. Merci d'accepter de dialoguer avec les auditeurs de RFI. Je précise qu'hier, à cette heure-ci, Patrick Muyaya, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de la RDC, a également répondu aux questions des auditeurs, notamment sur les tensions avec votre pays, le Rwanda. Des tensions depuis que les rebelles du M23 ont intensifié leurs attaques dans l'Est congolais. La RDC vous accuse le Rwanda non seulement de soutenir ces rebelles, mais d'avoir déployé sur son territoire des soldats aux côtés de la rébellion, des accusations qui sont démenties par Kigali, par les autorités rwandaises. On va donc en parler avec les auditeurs, et ils sont très nombreux. Alain Mukuralinda a souhaité justement dialoguer avec vous sur cette thématique au 33 9 693 693 70. On va donc passer immédiatement au standard avec une première question. Jean-Baptiste, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Et merci de nous appeler de la province de l'Ituri. On vous écoute.
Oui, effectivement, là où il y a les exactions. Alors ma question est celle-ci, comment expliquer que le Rwanda nie les accusations de soutien au M23 alors que deux soldats rwandais ont été capturés sur le sol congolais?
Bonne question, effectivement. Alain Mukuralinda, parmi les preuves avancées par la RDC pour affirmer que votre pays soutient les rebelles du M23, ce sont ces deux soldats rwandais, capturés sur le territoire congolais.
Merci pour la question, mais je pense qu'il est grand temps qu'aujourd'hui, on analyse ce genre de preuves qu'on prétend être une preuve solide, matérielle. En fait, ça serait la première fois dans l'histoire militaire moderne que juste deux militaires attaquent tout un pays à travers le camp militaire de Mangabo, comme je l'ai entendu dire. On a deux militaires avec leurs armes qu'ils transportent, sans logistique, sans approvisionnement. On a deux militaires au vu et au su de tout le monde, puisqu'ils portent leur tenue officielle avec le drapeau rwandais. On a deux militaires qui ont leur carte d'identité rwandaise, qui ont leur matricule militaire et qui s'avancent, comme on l'a dit, à 10, 20, 25 kilomètres.
Oui.
Ça n'a pas de sens.
Alors, ça n'a pas de sens, certainement, Alain Mukuralinda, mais que faisait-il à 25 kilomètres de la frontière?
Ça a été très bien expliqué. Ces militaires ont été kidnappés. Ont été kidnappés quand ils faisaient leur ronde sur la frontière entre le Rwanda et la RDC. Et la frontière, il n'y a pas de lisière, on peut traverser comme on marche, on peut même se tromper. Des fois, des militaires congolais se trompaient et étaient retrouvés au Rwanda, étaient arrêtés et remis aux autorités congolaises. Aujourd'hui, si le Rwanda voulait aider le M23, est-ce qu'il n'enverrait que deux militaires?
Ces deux,
pas de sens.
Patrick Muyaya, ici même, dans cette émission, disait hier que ces deux militaires avaient reconnu qu'ils étaient en opération spéciale en République démocratique du Congo.
Mais reconnu sous la torture qu'on a mise sur les réseaux sociaux, ces militaires étaient attachés, ces militaires étaient battus en train d'être interrogés. Tout le monde l'a vu. Et on aurait pu être plus intelligent et les interroger sous la torture, bien cachés quelque part, et puis nous les amener en train de parler sans être tortureux. On l'a vu qu'ils ont été interrogés, ils ont répondu sous la torture.
Ouais. Patrick Muyaya disait qu'ils ont répondu en toute liberté. Donc à vous entendre, Alain Mukuralinda, ces deux soldats rwandais ont été donc capturés le long de la frontière entre le Rwanda et la RDC, et qu'ils ont ensuite été conduits à 20-25 km à l'intérieur du territoire congolais. Parmi les autres preuves avancées par la RDC, il y a notamment des images, des vidéos filmées à partir de drones. C'est ce qu'affirme l'armée congolaise, montrant la présence de vos soldats sur le sol congolais.
Mais ces vidéos, on en parle, on n'a jamais vu. Aujourd'hui, hier, quand j'ai entendu M. le ministre en train de parler de ses preuves, j'ai entendu qu'il suppliait la MONUSCO de montrer ses preuves matérielles constituées des photos ou des vidéos. Mais on n'a jamais vu ces preuves. Et si je ne me trompe pas, c'est la MONUSCO qui a dit qu'elle n'avait pas de preuves matérielles comme quoi que le Rwanda et ses militaires soutiennent le M23, ils seraient entrés sur le territoire congolais.
Effectivement.
C'est la MONUSCO qui l'a dit.
La MONUSCO a effectivement affirmé la semaine dernière qu'elle n'avait pas observé de troupes rwandaises, ni dans les rangs du M23, ni sur le territoire congolais. Alain Mukuralinda, je vous propose de repasser au standard, d'accueillir Didier Serge à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Juan, je salue aussi le porte-parole du gouvernement rwandais. J'ai une petite question à lui poser. Je voulais savoir si il dit que le Rwanda ne soutient pas le M23, pourquoi le Rwanda n'est pas en mesure de condamner fermement les exactions commises par le M23?
Alain Mukuralinda.
Le Rwanda n'a pas à condamner ou à encourager le M23 parce que c'est un problème entre Congolais. Le Rwanda n'a pas à se mêler dans des affaires internes de notre pays. Le M23 a des revendications par rapport à son propre gouvernement. Il y a eu des rencontres, on le sait très bien. Il y a eu des négociations entre le M23 et son gouvernement. Il y a eu des résolutions qui ont été prises qui ne demandent qu'à être appliquées. Le Rwanda est prêt à aider, mais il n'a pas à se mêler dans des affaires internes de notre pays, parce que là, on parle d'un échec de l'armée congolaise ou de l'armée ou du gouvernement en général congolais qui n'a pas su en finir avec les groupes armés qui pullulent à l'est du pays. Aujourd'hui, on nous parle de plus de 130 groupes armés. De l'autre côté, on a un gouvernement qui doit répondre aux revendications des Congolais rwandophones. Mais pas parce que ces gens parlent qu'il y a Rwanda qui sont rwandais. Donc le Rwanda n'a pas à se mêler dans des affaires internes.
Vous dites que c'est un problème intra-congolais, mais ce n'est pas la première fois que votre pays est accusé de soutenir le M23. C'était déjà le cas il y a 10 ans, dans des rapports de l'ONU, des États-Unis, qui dénonçaient le soutien de Kigali aux rebelles du M23.
Et on ne devrait pas partir de ce fait qui s'est passé il y a 10-15 ans et croire que ça doit recommencer aujourd'hui. Ça n'a pas de sens.
C'est-à-dire qu'il y a 10-15 ans, vous pouviez soutenir le M23, mais aujourd'hui, non.
Il y a 15 ans, c'était dans un autre contexte. Il y a même des fois où le Rwanda est entré au Congo avec l'accord de ce pays. Il y a eu des accords. Il y a eu des accords pour aller lutter contre les mouvements qui pullulent là-bas, qui veulent déstabiliser le Rwanda. Il ne faut pas qu'on mélange les histoires. Alors, aujourd'hui, si le contexte a changé depuis... prenons l'exemple, on sait très bien que le M23 a été défait en 2013, si je ne m'abuse.
Exactement.
Quand il a été défait, il y a une partie qui est partie en Ouganda, il y a ceux qui sont venus au Rwanda, qui ont été désarmés et placés à plus de 200 km de la frontière congolaise. Aujourd'hui, ceux qui ont repris les armes, ils sont venus de l'Ouganda, on n'en parle pas. Pourquoi? Mais on est tenté de dire que ceux qui sont là sont soutenus par le Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, ils parlent qu'il y a Rwanda. Non.
Oui. Donc vous supputez, Alain Mukuralinda, vous supputez que le M23 qui a repris les armes en novembre dernier, ces rebelles-là viendraient plutôt de l'Ouganda.
Les rebelles qui ont repris les armes sont venus de l'Ouganda. Je l'affirme, il n'y a même pas à hésiter. Mais aujourd'hui, on nous parle d'un mouvement qui, en 9 ans, ne peut pas se réarmer. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Tout le monde, même le ministre, même les autorités congolaises, admettent aujourd'hui que ce mouvement exploite les richesses de ce pays, le sous-sol et tout ce qui s'y trouve. Donc, ils ont les moyens de s'armer. Personne n'oublie que ce pays a une frontière avec 9 autres pays.
Oui, en tout cas, pour Kinshasa, les choses sont claires. Hein. Les canons longue portée à la disposition du M23 témoignent d'un soutien du Rwanda. Je vous propose, Alain Mukarolinda, de redonner la parole aux auditeurs. Ils sont très nombreux à souhaiter dialoguer avec vous. Bonjour Edith Divin.
Bonjour Anne et bonjour à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité. Alain, votre invité de l'émission.
Alain Mukarolinda, nous vous écoutons. Oui, Edith Divin. Edith Divin, nous vous écoutons.
Le gouvernement rwandais avance que les FARDC coalisent avec les FDLR, ce qui démarre la MONUSCO. De quelles preuves disposez-vous?
Alors, le Rwanda accuse effectivement la République démocratique du Congo de collusion avec les rebelles rwandais FDLR qui sont installés depuis plus de 2 décennies dans l'est de la RDC. Information démentie par la MONUSCO et démentie également par les autorités de Kinshasa. Alain Mukarolinda, quelles sont vos preuves?
Démentir, c'est une chose, mais avoir des preuves matérielles et vérifier, c'est une autre chose. Aujourd'hui, prenons un simple exemple. Il y a eu beaucoup d'exemples, mais celui qui a eu dernièrement, il y a 2-3 semaines, il y a plus de 700 anciens membres des FDLR qui ont été réinsérés dans la vie, dans la société rwandaise, après leur retour au Rwanda. Ce sont eux qui nous expliquent comment ils collaboraient avec les FARDC, qui était leur commandant, comment ils se sont approvisionnés, où était leur position, quelles sont les attaques qu'ils ont menées. Et après vérification, parce que ce n'est pas parce qu'on nous donne ces informations qu'on ne doit pas vérifier, ces informations concordent. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas à la télé, on n'en parle pas dans les réseaux sociaux ou dans différentes réunions ou forums qu'on n'a pas de preuves.
Donc vos preuves, vous les tenez d'anciens rebelles FDLR?
Ces rebelles qui sont rentrés volontairement et même ceux qui ont été arrêtés et ramenés au Rwanda. Donc, celui qui a été ramené par la force ou arrêté, on peut dire que peut-être il a peur, mais même ceux qui rentrent volontairement donnent des informations qui sont vérifiées par le service de renseignement rwandais et ça concorde. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'on n'a pas les informations, les commandants, les positions de l'armée, l'approvisionnement, les armes, les uniformes, on a toutes les informations.
On va continuer à parler des FDLR dans un instant. En tout cas, Patrick Muyaya, hier, dans cette émission, a affirmé que les forces armées congolaises n'arrêtaient pas de combattre ces rebelles rwandais. On repasse au standard avec Charlie à Johannesburg. Bonjour Charlie.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs. C'est pour moi la première fois de participer à l'émission.
Eh bien, soyez le bienvenu. Nous vous écoutons. Quelle est votre question?
Merci. Ma question est la suivante, monsieur le porte-parole adjoint. Je voudrais lui poser... Oui, ma question est la suivante. Pourquoi le Rwanda prétexte toujours la présence des FDLR en RDC pour intervenir dans notre pays?
Alain Mukarolinda.
Premièrement, le Rwanda, il est déjà intervenu dans votre pays 2 ou 3 fois en accord avec le gouvernement congolais. Il y a eu l'opération Mojawe, il y a eu d'autres opérations pour résoudre ce problème des FDLR. Et à ce moment-là, lors de ces interventions, il y a eu des résultats. Malheureusement, ces accords n'ont pas continué. À certains moments, ils ont été arrêtés. Peut-être que si on avait laissé les accords aller au bout de l'objectif qui était prévu, ce problème aurait été résolu.
Mais est-ce que le FDLR représente encore à l'heure actuelle, en 2022, une menace pour le Rwanda?
Bien sûr, parce qu'eux-mêmes, ils le disent, leur objectif est de rentrer au Rwanda par les armes. Aujourd'hui, on a toutes ces informations. Comme je viens de vous le dire, dernièrement, il y a eu 700 anciens membres des FDLR qui ont été... aujourd'hui réinsérés dans la société rwandaise. Tous ces gens nous donnent des informations. Les mouvements sont toujours là. Il y a plus de 100... Hier, quand j'ai entendu le ministre, il parlait de Rev Tabara du côté du Burundi. Il parlait de UDR, je ne sais plus comment on les appelle, du côté de l'Ouganda. Il y a tous ces mouvements qui veulent déstabiliser ces pays. Mais aujourd'hui, le Rwanda est pris comme bouc émissaire. On ne parle pas d'autres mouvements. Quand il s'agit du M23, c'est automatiquement le Rwanda. Alors que si on veut vraiment analyser la situation telle qu'elle est sur le terrain, on devrait généraliser le problème et essayer de le résoudre sans chaque fois prendre le Rwanda comme bouc émissaire.
Alors, on a énormément d'auditeurs qui souhaitent justement vous interroger sur le FDLR. Le temps passe très vite, il nous reste 5 minutes. Il y avait deux autres sujets qu'on souhaitait évoquer, évidemment, car là aussi, il ne laisse pas indifférents nos auditeurs. Il y a d'abord cet accord que votre pays a conclu avec le Royaume-Uni. Bonjour Jean-Noël.
Bonjour Roi.
Vous êtes à Cardiff.
Exactement, je suis à Cardiff, oui.
Nous vous écoutons.
Oui, donc Londres a conclu un accord avec Kigali pour pouvoir envoyer au Rwanda les demandeurs d'asile. Donc le premier vol qui devrait les expulser a finalement été annulé la semaine dernière. Mmh. Donc ma question est de savoir pourquoi le Rwanda a accepté de sous-traiter les demandes d'asile du Royaume-Uni.
Alors, cet accord qui permet, rappelons-le, aux autorités britanniques d'expulser vers Kigali les demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni. Alain Mukuralinda, pourquoi avoir conclu un tel accord ?
Le Rwanda a conclu cet accord parce que aujourd'hui, le Rwanda a l'expérience dans ce domaine. Aujourd'hui, on a accueilli des migrants qui venaient de la Libye, on a accueilli des migrants qui venaient de l'Afghanistan, on a sur notre territoire plus de 130 000 réfugiés. Et on voit les gens qui migrent, parlons des gens qui viennent d'Afrique spécialement, qui passent à travers les déserts, qui sont exploités par des criminels, qui sont violés, qui sont assassinés. On voit des gens qui sont en train de se noyer. On voit la politique en général en Europe et en particulier en Grande-Bretagne qui ne veulent pas accueillir ces migrants, qui ne veulent pas accueillir ces réfugiés. Et on se dit pourquoi pas.
Vous vous dites pourquoi pas. Filippo Grandi, sur notre antenne ce matin, le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, a dénoncé cet accord, un accord qui viole le droit des réfugiés, le droit international. C'est un précédent dangereux pour le droit d'asile dans le monde, a-t-il dit.
C'est bien de dénoncer, mais c'est aussi, je pense que c'est mieux de proposer une solution. Aujourd'hui, ça fait au moins 10 ans que les gens se noient. Même aujourd'hui, on est en train de parler, je suis sûr et certain qu'il y a 10 jours, il y a eu des noyades, mais on critique sans proposer.
Et en contrepartie, le Rwanda va percevoir une aide financière. On parle de 140 millions de dollars.
En contrepartie, le Rwanda va recevoir le coût nécessaire pour s'occuper de ces gens. Ce n'est pas une aide financière. Il faut que les choses soient claires. On n'a pas peur de parler de l'argent, mais il faut bien qualifier exactement à quoi ça va servir cet argent. Cet argent va servir à aider ces gens à se réinsérer, à étudier, à travailler, à se former en Kinyarwanda, en anglais, en français et à s'installer dans la vie de tous les jours.
Alain Mukuralinda, je regarde la pendule, il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on prenne une dernière question toujours sur ce dossier qui suscite la controverse. Youssouf, bonjour.
Bonjour Monsieur Rouen.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Oui, en rapport avec ce sujet, j'aimerais savoir comment le gouvernement rwandais compte intégrer ces demandeurs d'asile fuyant les persécutions, quand on sait bien que le Rwanda affiche un bilan négatif sur les plans des droits humains.
Votre pays est régulièrement accusé de réprimer la liberté d'expression, les critiques, l'opposition politique. Que répondez-vous à Youssouf ?
C'est vrai que notre pays est régulièrement accusé. Et accusé par la plupart des mouvements, des organisations qui sont assis à Genève, à Washington, à Bruxelles, et qui font leur rapport sans même mettre le pied ici. Donc ça, on est à ces reproches. Rien n'est parfait, mais on est habitué. Aujourd'hui, si l'Angleterre a décidé d'envoyer les migrants au Rwanda, c'est que d'abord, il a fait ses enquêtes. Ça, c'est d'ailleurs la meilleure façon de faire. Aujourd'hui, si on reçoit de tous les pays de l'Europe des gens qui ont commis les crimes de génocide, qui viennent être jugés ici, qui sont renvoyés ici pour être jugés, c'est qu'on a fait des enquêtes. Donc, il faut faire le tri entre ce qui est dit par des gens qui n'ont même pas mis le pied au Rwanda pour faire des enquêtes, qui font des rapports grâce à Internet, et la réalité de ce qui se passe. Alain. En fait, les actes contredisent des rapports faits à l'Europe, en Europe et ailleurs.
Alain Mukuralinda, merci infiniment. 20 minutes, ça passe très très vite. Mais merci à vous, porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, d'avoir accepté ce dialogue, ce face-à-face en direct et sans tabou avec les auditeurs de RFI. Bonne journée à tous. Vous restez évidemment à l'écoute de Radio France Internationale. On va retrouver l'ensemble du service Afrique d'RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et tout de suite après, on continuera à dialoguer, à débattre ensemble. On parlera de la situation sécuritaire au Mali après le massacre djihadiste de Diallo Sagou, au moins 132 victimes.